cours de philosophie de la nature du père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jaudard le 10 décembre 1999.
Parce que tout ce qui est mis est mis par un autre, mais ce n'est pas ça qui fait comprendre le mouvement, c'est pas l'autre. C'est ce qui est mu. Et à partir de là, on a vu donc la détermination et l'indétermination. Après avoir découvert ce principe à la fois déterminant, la nature est déterminée, et indéterminée, tout mouvement ne peut se faire qu'en raison d'une matière indéterminée. Donc, quelque chose qui vient nous voir, la détermination de ce mouvement et l'indétermination. Et la détermination qui existe dans la nature permet de montrer comment il y a une certaine finalité. Et les manques de la finalité, le hasard. Et partout où il y a nature, il y a matière, et donc il y aura possibilité d'une indétermination. Ce qui fait que c'est si difficile de bien préciser en philosophie de la nature les déterminations. Nous pouvons préciser maintenant que l'effet propre de ce principe qui est la nature est le mouvement. C'est ce qui caractérise justement la Phugis. C'est que tout corps, toute réalité liée à la matière est toujours capable d'être mu. Et toujours déterminée aussi. Et donc, elle a un mouvement qui lui est propre. Mais c'est très curieux. Nous découvrons la nature par il existe un mouvement. Et une fois que nous avons découvert ce principe, nous voyons que le mouvement lui appartient en propre. Toute réalité physique est capable d'être mue. Et je dis bien capable, je ne dis pas qu'elle se meut. C'est ça qui est très délicat pour nous, parce que on imagine, nous, toujours la nature comme un mouvement, comme un vivant. C'est sûr. J'ai jamais vu une nature à l'état pur. Nous vivons dans un monde de vivants. C'est, paraît-il, ce qu'il y a de plus terrible quand on va sur la Lune. Parce que c'est ça qui est terrible. D'être en face d'un monde qui n'est pas vivant. On est complètement étranger à l'égard d'un monde qui n'est pas vivant. C'est pas notre monde. C'est curieux, hein. La nature comme telle, pour un vivant, que nous sommes vivants hein, à travers tout notre corps, à travers tout ce que nous sommes des vivants. Un monde purement physique est un monde étranger. Et rudement étranger. On serait presque d'avis de dire il est hostile. Et il ne l'est pas. Je ne peux pas dire que le monde physique m'est hostile. Non. Mais il est étranger. C'est curieux. Alors, j'ai essayé d'étudier les diverses manières dont il m'est étranger. Parce qu'il est complexe, ce monde physique. Il n'est pas simple du tout. Il est complexe. Il est divers. Il est divers quant au mouvement même de ce monde physique. La diversité de ce monde physique. La diversité du feu. Le feu, c'est une réalité naturelle. Il faut se faire brûler pour comprendre ça. Ordinairement, vous fuyez le feu. Vous voyez, il est étranger, le feu. Il brûle. Il est très violent, il me brûle. Quand je suis en face du feu, d'une forêt en feu, ça ne vous attire pas beaucoup. Vous aimez mieux de regarder ça de loin. Et tant que vous regardez la nature de loin, vous n'êtes pas familier avec elle. Le monde matériel demande qu'on le touche. Hein, toucher le feu. Ça, c'est les gosses qui aiment de se toucher le feu. Et c'est terrible quand ils se font se brûler. J'ai toujours en vision, quand je parle de ça, une vision qui m'est restée, parce que c'était pendant la guerre, où on allait à Paris en bicyclette, Bétiole, à Paris en bicyclette, ça faisait 70 km, c'était très bon. Moi, ouais, c'était un peu de mouvement. Alors, le mouvement est naturel pour la nature. Le repos, c'est le vivant, c'est pas la nature. Pour que le repos soit agréable, il faut qu'on soit fatigué. Quand on n'est pas fatigué, le repos est terriblement fatigant. Il n'y a rien qui fatigue plus que ça. Et alors, il y avait de la neige. Qu'est-ce que je vois devant moi? Des flammes. C'était des gosses qui étaient en train de brûler. Et sur le blanc, hein, de la neige, ça faisait... J'ai filé à toute vitesse, le plus vite possible, pour les rejoindre. Ils brûlaient, ces gosses. Et quand j'étais au milieu d'eux, tout près d'eux, je les ai enroulés dans la neige pour essayer de les éteindre. Je leur ai demandé qu'ils avaient... Ils ont dit, oh, on avait des allumettes, on s'est amusé. C'est amusant, le feu. Ah oui. C'était celui qui ne brûlait pas qui disait ça. Parce qu'ils étaient trois. Mais c'est le troisième n'avait pas eu la présence d'esprit de les rouler. C'était trop gosse, c'était de les rouler dans la neige. Puis après d'arrêter une voiture le plus vite possible. Il y avait quand même de temps en temps des voitures. Pour faire l'ambulance, ils venaient le plus vite possible à l'hôpital. Je n'ai pas su après comment ça s'est passé. Mais on voit ce que c'est que le feu. J'ai jamais vu mieux le feu que là. C'est comme le feu agresse. Il brûle. Il est victorieux, le feu. De façon étonnante. Et il se mêle à rien. Il se mêle à rien, le feu. Il n'aime pas les mélanges. Quand vous jetez de l'eau sur le feu disparaît à l'endroit où vous avez mis de l'eau. Mais il continue. Il ne s'avoue jamais vaincu dans la nature. C'est extraordinaire. Et le mouvement du feu, c'est de monter. Il monte. Et c'est par là qu'il est victorieux. Il échappe. Il échappe à la terre. La terre, au contraire. Vous avez les deux extrêmes. Ça, c'est l'expérience première qu'ont fait ceux qui réfléchissaient sur la nature. Qu'est-ce que c'est que le feu? Qu'est-ce que c'est que le feu? Cherchez bien, hein. Vous l'utilisez, le feu, mais vous ne savez pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que le feu? C'est naturel. Je ne sais pas ce que c'est que la nature si je ne regarde pas le feu. Il y a la terre. Vous voyez, je regarde toujours la nature à partir de la terre. Oui, c'est très bien, mais c'est pas ça qui me fait comprendre ce que c'est que la nature. Il y a un élément victorieux dans la nature. Un élément qui domine les autres, qui est le feu. Puis entre deux, il y a l'eau. L'anti-feu. L'eau. Puis il y a l'air. L'air, c'est pas l'anti-feu. L'air, c'est quelque chose de curieux. Très difficile à préciser, l'air. Je m'aperçois que la nature a quelque chose qui lui est propre, c'est d'être mue. Et qu'il y a quatre mouvements naturels. Le feu, difficile à arrêter, victorieux, conquérant, il monte. Il y a la terre qui tombe. Vous ne pouvez pas maintenir la terre, elle tombe. La loi de la pesanteur, hein, elle tombe, elle dégringole la terre, tout le temps. Et plus c'est terre, plus ça dégringole. Il y a l'eau, c'est naturel. Et le mouvement de l'eau est différent que le mouvement du feu, que le mouvement de la terre, puis à l'air. Alors, ces quatre éléments j'ai voulu à Fribourg, où je pouvais le faire. J'avais des chimistes qui enseignaient à l'université et qui s'intéressaient beaucoup à la philosophie. Alors, je lui ai dit avec eux, si vous voulez, on va faire un petit séminaire pour se demander si les quatre éléments, la terre, l'eau, l'air, le feu, est-ce que ces quatre éléments, au plan philosophique, est-ce que la science moderne va corriger et dire non, il y a autre chose. Vous ne pouvez pas soutenir ça, c'est un mythe. Parce qu'on se sert dans les mythes du feu éternel, le feu de l'enfer. C'est un mythe, hein. Cherchez bien, vous ne trouverez jamais le feu de l'enfer. On ne dit pas la terre de l'enfer, mais on dit le feu de l'enfer. Et selon les mythes religieux, on parle du feu de la terre, du feu de l'enfer. On parle de la lumière du ciel, pas de ténèbres. Alors la lumière, est-ce que la lumière est un élément nouveau? Ça ferait un cinquième élément, ce serait la lumière. Alors est-ce que la lumière est la quintessence? Quintessence, c'est-à-dire le cinquième élément. Hein. Quatre éléments et puis kin. Cinq. Cinquième élément, la quintessence. Pour les anciens, la quintessence, c'était les corps du ciel, qui n'étaient pas corruptibles. C'est la seule différence qu'il y a. C'est le Decello d'Aristote, qui, devant les progrès de la science moderne, se réduit à très peu de choses. Si on avait le temps, vous voyez, on ferait un séminaire sur le Decello d'Aristote. Parce que le ciel joue un très grand rôle au point de vue philosophique, hein. L'astronomie joue un très grand rôle. Alors, est-ce que l'astronomie aristotélicienne, l'astronomie platonicienne, est-ce que tout ça, c'est le mythe? Ou est-ce que le logos a quelque chose à dire là-dedans? Quatre éléments, et puis il y a la quintessence. Cinquième élément. Alors, est-ce que le cinquième élément, c'est purement mythique. C'est intéressant, voyez, parce que c'est un endroit où, de fait, on peut s'affronter. Une chose qui m'intéressait beaucoup, c'était de savoir si les quatre éléments, au point de vue philosophique, nous pouvons les garder. Devant la science et le progrès de la science chimique, les éléments philosophiques sont tout à fait autre chose que les éléments chimiques. Tout à fait différents. Alors c'est intéressant de savoir comment on induit les éléments. On les induit, les éléments. Parce que vous ne touchez jamais le feu pur. Le feu qui est lié au bois et qui brûle le bois. Il y a le feu qui vient d'autre chose, d'essence, brûle. Mazout, brûle. Le feu pur, vous ne le touchez pas, et l'eau pure. On les infère, les éléments. Comment on infère ces éléments? Et est-ce que ces éléments, même avec le développement de la chimie, restent-ils des éléments? Oui. C'est une question très intéressante, ça. Pendant toute une année, on a essayé d'étudier ça, de voir si on pouvait. Et pour ça, il fallait un chimiste. Un vrai chimiste, oui. La chimie, c'est d'étudier les éléments, étudier la matière. Alors, est-ce que ces éléments m'avancent à quelque chose? Ou pas du tout? C'est autre chose. Eh bien, on est arrivé à cette conclusion, et je crois qu'elle était vraie, que les éléments physiques restent des éléments physiques. Ça touche vraiment quelque chose d'absolument fondamental. Le fondement de notre monde physique est quatre éléments. Le fondement de notre monde physique. Alors ça, c'est intéressant. Ouais. Qu'est-ce qui reste? C'est pas Aristote qui a inventé les éléments, c'est Empédocle. C'est la philosophie d'Empédocle qui a vu les quatre éléments. Et il l'a vu à travers des mouvements différents. La terre et le feu ont deux éléments tout à fait différents, deux extrêmes. L'un qui va d'en bas en haut, l'autre qui va du haut en bas. C'est irréductible, ça. Ça, vous êtes bien obligé de l'accepter. C'est irréductible. Ceux qui tombent par terre, ça ne monte pas. Et ceux qui montent ne tombent pas. Comment ça se fait que le feu monte et que la terre dégringole? Comment expliquez-vous ça? Ce sont des éléments. Des éléments qui jouent les uns sur les autres, constamment. Notre univers est un jeu par rapport à ces éléments. Qui sont toujours constants à eux-mêmes. Hein. Le feu ne se convertit pas en feu. Je veux dire, la mer ne se convertit pas en feu. L'eau ne se convertit pas en feu. Et la terre ne se convertit pas en feu. Et la terre non plus. Ils sont irréductibles. Mais ils agissent l'un sur l'autre. Et il y a, à partir des quatre éléments, il y a des mixtes. Il y a des corps dans lesquels l'élément feu domine, il y a des corps dans lesquels l'élément eau domine, il y a des éléments dans lesquels des réalités physiques dans lesquelles la terre domine. C'est curieux. Et vous n'avez jamais des éléments purs. Donc vous induisez ça. Et vous avez là les premiers éléments. L'élément n'est pas un principe. L'élément n'est pas un principe. Hein. Le principe, c'est la nature. Alors, il y a le feu qui est une nature distincte de l'eau qui est une autre nature. Et la terre est une autre nature. Et le souffle, l'air, est une autre nature. Alors, qu'est-ce que ça correspond? L'élément, ça correspond à une manière dont la nature est réalisée, fondamentalement. Donc c'est un mode particulier de la nature. Et la nature est un principe, principe du devenir. Et dès que je suis en face d'un mouvement irréductible à un autre mouvement, je suis donc en présence d'une nature irréductible à une autre nature. La nature n'est pas unique, elle est multiple. Tout de suite, elle est diverse. Elle a cette diversité fondamentale, ils sont la diversité des éléments. Et c'est une diversité fondamentale, les éléments. J'ai quatre mouvements distincts. Alors, c'est très intéressant de faire cette recherche chez les philosophes grecs, les pré-socratiques, comme on les nomme. Ce sont des philosophes qui se sont intéressés aux éléments. Et Empédocle est celui qui a trouvé, il les appelle les quatre racines. Les quatre racines de l'univers. Oui, on sait les éléments, les racines, donc c'est métaphorique. Quand j'ai un être de vie végétative, je regarde sa racine. Hein, et je trouve là la diversité. Alors les quatre racines de notre monde physique, les éléments. Et le corps humain est fait de ces quatre éléments. Vous avez du feu en vous. Ça explique votre âge. Ça explique votre irascible. Ça explique beaucoup de choses, le feu. Vous avez du feu en vous. Il y a des tempéraments qui sont des tempéraments de feu. Partout où ils sont là, ils brûlent tout. Pas uniquement brûler, hein. Comme le gosse qui aime de brûler son voisin. Ou sa voisine, parce que ça brûle encore mieux. Les petits gosses qui faisaient ça, ils s'amusaient ça. Et c'est vrai, c'est... Bon, on sait très bien que les gosses aiment s'amuser au feu. C'est très, très curieux. L'âne, haine, l'âne, ils sont semblables. Le gosse aime le feu, parce qu'il y a en lui du feu. Alors évidemment, c'est mélangé, la chair. C'est du feu, le sang. Quatre éléments. On réduit. Les mixtes. Et le mixte le plus parfait, c'est le corps humain. C'est le mixte le plus parfait. C'est difficile de faire un mixte plus parfait que le corps humain. La chair humaine. Philosophiquement parlant, ça se ramène aux quatre éléments. Mais c'est une mixture des quatre. Et c'est ce qu'on fait en chimie, hein. On essaie de faire des corps nouveaux à partir des éléments. Mais ce n'est pas du tout de la même façon. Voyez, on mesure les éléments, tandis que ce qui a été pour le monde physique, ça a été par rapport au corps humain. C'est par rapport au corps humain qu'on voit les quatre éléments. C'est toujours lié au corps humain et c'est toujours lié au mouvement physique. Un mouvement irréductible à un autre. Les éléments, c'est leur diversité vient de ça. Alors, on a quatre éléments qui forment le corps humain. Quant à la quintessence, qui est incorruptible, parce que pour les anciens, les corps célestes étaient incorruptibles. Étant donné que leur corruption était très lente. Et donc, de mémoire d'homme, on ne voyait pas la corruption. Alors maintenant, on parle des éléments qui peuvent se corrompre dans le ciel, qui peuvent disparaître. Alors, on avait inventé, à partir du mouvement des corps célestes, un mouvement parfait. Quel est le mouvement parfait ? C'est le cercle. Parce que le cercle, le point de départ et le terme sont identiques. Donc c'est un mouvement parfait. Le point de départ et le terme. Parce qu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Tandis que le mouvement rectiligne ou le mouvement qui monte, il y a des raisons que ça s'arrête. Ils ont en eux-mêmes leur terme. Tandis que le mouvement circulaire, il n'y a pas de raison qu'il s'arrête. Alors, puisque tout mouvement implique un corps, implique une nature, quelle est la nature propre de ces corps physiques qui ont comme mouvement propre le mouvement ? C'était la grande question d'Aristote, la grande question de ces physiciens. C'est vrai qu'à la nuit, le soleil fait toujours le même mouvement. Et tous les corps célestes ont l'impression de... C'est comme pour ça qu'on sait que le premier mouvement des corps célestes, c'est le mouvement d'un cercle parfait, sans aucune bavure. Et ce cercle est éternel, immuable. Et c'est comme ça qu'on dit que les corps célestes sont tous célestes. Il faut donc poser des corps qui ne font pas partie de notre univers. Notre univers est un univers corruptible. Il y a donc deux matières, et c'est tous les raisonnements d'Aristote, il y a deux matières, la matière des corps corruptibles et la matière des corps incorruptibles. Et cette matière des corps incorruptibles, elle est déterminée par la quintessence. Et donc on a le cinquième élément. Alors ça, évidemment, la science moderne par rapport à l'astronomie, est obligé de dire que les astres, que nos astres, font partie de notre univers. Mais ils ont des qualités particulières qui font qu'ils nous paraissent irréductibles. Ils nous paraissent irréductibles. Ils nous paraissent incorporels. Mais ils le sont. Et donc il n'y a plus de quintessence. Il n'y a plus de quintessence. Le soleil brûle ce qui n'est pas le soleil. Donc c'est le feu qui brûle. Mais on garde les quatre éléments. Et les quatre éléments nous font comprendre l'aspect fondamentale de notre univers. Et ces quatre éléments sont tout le temps en mouvement. Et tout le temps, ils se brûlent. Et ça recommence indéfiniment. Et alors la lumière... La lumière, qu'est-ce qu'elle est ? Pour Aristote, la lumière est une propriété de la quintessence. Parce que les anciens ont été très, très inquiets sur la lumière. Qu'est-ce que c'est que la lumière ? Est-ce que c'est un corps physique encore ? Ou est-ce que c'est quelque chose de spirituel. Étant donné qu'on se sert de la lumière pour exprimer ce que c'est que les esprits, ils sont lumineux. C'est l'anticorps. La lumière, qu'est-ce qu'elle est ? Elle est, d'une certaine manière, au-delà des quatre éléments. Et il y a dans la lumière quelque chose qui d'incorruptible. La lumière me permet de voir. S'il n'y avait pas la lumière, je ne verrais rien. Mon monde est transformé par la lumière. Alors qu'est-ce que c'est que la lumière ? Point de vue physique. Point de vue philosophique, hein, je ne parle pas de la lumière au niveau. Ce que dit le savant sur la lumière, c'est intéressant, parce que fond, le savant aussi est intrigué sur la lumière. Il ne dit pas, il ne cherche pas, il cherche les effets de la lumière. Quels sont les effets de la lumière ? Les effets de la lumière, c'est sur mon œil. Mon œil est fait pour voir la lumière. Tandis que mon toucher, il est fait pour quoi ? Pour la matière. La matière est douce, la matière est rugueuse, la matière est pesante. Je suis fait pour ces qualités-là de la matière. Quelles sont les qualités de l'eau ? Parce qu'après les mouvements, je regarde les qualités du monde physique. Et je vois que ces qualités, toutes les qualités élémentaires, chaud, et sec, humide et froid. Au fond, j'ai là des qualités qui affectent ces différents éléments. J'ai considéré leur diversité par le mouvement parce que le mouvement est une propriété du corps physique. Il est lié au corps physique. Tandis que les qualités ne sont pas liées au corps physique comme des propriétés. Les qualités, c'est pour le corps physique lui-même la corruptibilité ou l'incorruptibilité. Il y a une très grande différence entre les deux si je veux étudier la nature. Parce que les qualités qui sont liées à la vue, qui sont liées à la lumière, ces qualités ne me donnent pas le caractère propre du monde physique. C'est très curieux, ça. Les qualités du monde physique, c'est lié au mouvement. Tandis que les qualités qui viennent de la lumière ou qui sont actués par la lumière me permettent aussi de connaître la nature, mais pas aussi directement. Les qualités sont liées à notre monde physique et proviennent de notre monde physique. Et les qualités sont plus immédiatement orientées vers l'homme, vis-à-vis de la connaissance. Tandis que le mouvement, c'est autre chose. Alors vous avez d'une part le mouvement, d'autre part les qualités. Les qualités sont commandées par la lumière, et le mouvement sont commandées par le point de vue des corps, des éléments. Alors, les anciens avaient découvert la source de la lumière dans la quintessence. Il n'y a pas de quintessence. Alors, doit-on dire que la lumière présuppose un corps qui est comme la quintessence, mais qui n'est pas la quintessence. Je pose l'interrogation là, parce que ça reste une interrogation. J'ai pas vu de solution par rapport à ce que représente le monde tel que le connaît le savant et le monde tel que le connaît le philosophe. Le philosophe, c'est toujours relatif à l'homme. Et c'est pour ça que les éléments demeurent. Alors on continuera ça. Et cherchez de votre côté. Si vous avez fait des études de chimie très poussées, essayez de comprendre ce que c'est que la lumière. Parce que nous sommes bâtis nécessairement pour comprendre cet univers dans lequel on est. Je suis bâti avec mes sens pour connaître la lumière et les ténèbres, pour connaître ce qui est tangible, ce qui ne l'est pas. Et qu'est-ce qui unit tout cela? Le mouvement physique. Mais la lumière est-elle encore dans le mouvement physique? Ou est-elle, elle, mesure du mouvement physique? Parce qu'elle est instanti. Les anciens disaient ça, et saint Thomas dit encore ça. La lumière est instanti. Le Christ reviendra comme la lumière. Les corps glorieux sont lumineux. Voilà ce que disent les théologiens. Mais qu'est-ce que c'est que la lumière ?